Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour. Le bilan européen en matière de biodiversité laisse peu de place au doute. 80% des habitats sont dans un état de conservation insuffisant ou dégradé. Dans son plan vert, l'UE prévoit donc de protéger 30% de la surface maritime et terrestre. En cause, l'urbanisation, l'agriculture intensive, les espèces invasives ou les pollutions. À la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, justement, le fleuve Oder a été victime d'une catastrophe écologique l'année dernière. 100 tonnes de poissons ont trouvé la mort. Aujourd'hui, les scientifiques viennent mesurer comment l'écosystème se répare. C'est le reportage de Salomé et Noncoin.
Avec son équipe, le scientifique Christian Wolter est sur le terrain ce matin-là. Au programme, mesurer la taille des poissons présents dans un tronçon de 400 mètres sur le fleuve Oder.
Nous avons eu ici une loche dorée, ce qui est très beau, car on ne la trouve que dans l'Oder parmi toutes les rivières d'Europe. Nous avions beaucoup de turbots et ce qui m'a fait plaisir, c'est que nous en avons trouvé beaucoup. Même une espèce dont nous ne savions pas exactement où elle en était après la catastrophe de l'année dernière.
L'année dernière, un été noir pour la région de l'Oder. Pendant des jours, pêcheurs et habitants trouvaient les poissons du fleuve morts sur le rivage, sans savoir pourquoi. C'est l'équipe de Christian Wolter, écologue spécialiste des poissons d'eau douce à l'Institut Leibniz à Berlin, qui en a trouvé la raison. À cause notamment des rejets d'eau usée chargés en sel, tout droit sortis des usines minières bordant la rivière du côté polonais, l'eau du fleuve est devenue très salée, trop salée, ce qui a contribué à la multiplication d'une algue toxique qui a causé la mort de ces espèces fluviales. Au niveau allemand, polonais et même européen, on parle plutôt d'une multiplication de facteurs, sans incriminer directement les entreprises minières polonaises. La sécheresse qui a sévi dans toute l'Europe à l'été 2022, par exemple, a bien aggravé la situation.
Nous estimons qu'environ 1000 tonnes de poissons sont morts. Et pour les crustacés, nous ne pouvons pas les quantifier. Sur 3 tronçons test, nous avons cependant constaté que nous avions 60% de pertes.
Pendant quelques semaines, ces scientifiques vont mesurer, cartographier, quantifier les poissons présents dans le fleuve. Le but, vérifier si certaines espèces, très touchées l'an dernier, ont bien survécu. Direction leur bateau à moteur, où ils drainent les fonds du fleuve avec leurs longues épuisettes. Puis, place aux mesures. L'équipe va continuer ses projets, en lien notamment avec les autorités scientifiques et politiques polonaises. Depuis la catastrophe, les Polonais s'y sont engagés à travailler main dans la main avec les Allemands. Dans le petit camping situé un peu plus bas sur le fleuve, cet événement a été vécu de façon particulièrement traumatisante par André et sa famille. Ils dirigent le camping et vivent de la pêche depuis 1657, soit depuis 6 générations. À 39 ans, André a repris le flambeau il y a quelques années déjà. Et quand on lui demande s'il avait déjà vu quelque chose de semblable...
Pour moi, c'était très effrayant. À une telle échelle, en tant que jeune pêcheur, je ne pouvais pas y croire. Les premiers jours, il y avait des poissons morts et on se disait « D'accord, ok, ça peut arriver en été ». Et tout d'un coup, il y en a eu tellement et dans de telles proportions et de toutes les tailles aussi, du plus grand au plus petit, pour toutes les espèces. On se dit « Quelle tristesse ». Je dois dire que parfois, les larmes sont montées.
À la tristesse, s'est ajoutée l'impossibilité de travailler pendant plusieurs mois. Entre août et octobre, André et sa famille n'ont quasiment pas accueilli un touriste sur leur petit camping en bord de fleuve. Une situation difficile à tenir sur le plan financier. Mais en ce début de printemps, la saison recommence. Le cahier de réservation est déjà bien rempli. Ce jour-là, des touristes arrivent à l'improviste de Thuringe. Pour André, c'est un soulagement de voir son camping se remplir à nouveau. Une façon de continuer à faire connaître cette région, qui lui est si chère.
L'Oder est un fleuve qui relie les gens. Bien sûr, c'est la frontière naturelle entre nos deux pays, mais il relie l'Allemagne et la Pologne plutôt que de les séparer. Et depuis qu'il n'y a quasiment plus de frontières, depuis 15 ans environ, nos liens sont devenus meilleurs. On se salue, on traverse, on peut accoster en bateau de l'autre côté.
Ce week-end, des dizaines de badauds sont attendus chez André. Au menu, du poisson fumé par ses soins et de la bière, bien sûr.
La fin de l'instabilité politique peut être enfin pour la Bulgarie, alors que les partis politiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour former un gouvernement en avril dernier, à l'issue du 5e scrutin en 2 ans. C'est une nouvelle figure qui incarne l'espoir. Maria Gabriel a démissionné de son poste de commissaire européenne à Bruxelles et a réussi dans son pays à trouver un accord entre les conservateurs et les libéraux. Vice-première ministre pendant 9 mois, elle prendra ensuite les rênes du gouvernement. Un défi pour cette francophile de 44 ans, Juliette Garbrand.
C'est à Bordeaux que Maria Gabriel pose ses valises pour faire Sciences Po, la ville des 3M, Montaigne, Montesquieu, Mauriac, comme elle aime à rappeler. Nous sommes au début des années 2000, elle vient de quitter la Bulgarie et c'est le début d'une carrière européenne fulgurante. En 2017, à 38 ans, elle devient la plus jeune commissaire européenne en charge du numérique. Guillaume Clossa, président du think tank Europa Nova, était à l'époque conseiller à la vice-présidence.
Maria Gabriel, c'est une femme qui connaît bien les institutions, qui connaît bien les sujets européens. Et qui en plus est une des rares commissaires qui parlait français avec son équipe et avec les services. Elle a joué un rôle très important sur la révision de la directive droit d'auteur. Elle a laissé, à la fin de son premier mandat, un souvenir d'une femme qui est à la fois ouverte, compétente, active.
Maria Gabriel enchaînera ensuite avec le portefeuille de l'innovation et de la jeunesse. Mais tout commence en 2009. À l'initiative de Boyko Borisov, le patron du GERB, le parti conservateur bulgare, elle est élue députée européenne. Elle fera 2 mandats, épousera un haut fonctionnaire des institutions européennes, proche des hautes sphères du PPE. Travailleuse acharnée, Maria Gabriel cumule les distinctions avec la solide réputation de pousser ses équipes à bout. Ses détracteurs, à Bruxelles comme à Sofia, lui reprochent aussi de prendre ses ordres auprès de Boyko Borisov directement, mais une commissaire ne défend pas son pays, rappelle Guillaume Clossa.
Ce n'est pas une femme partisane, c'est une femme d'intérêt général et c'est une femme aussi qui est multiculturelle, à la fois française et bulgare.
Est-ce la Bulgare qui rentre aujourd'hui à Sofia ? Beaucoup de ses compatriotes en doutent. Raina Stamboliska est spécialiste des politiques européennes de cybersécurité.
Ça fait bientôt 15 ans qu'elle a été, si vous voulez, éloignée de la vie politique bulgare. Et donc, il y a aussi des doutes quant à sa capacité à vraiment entendre les problématiques, les préoccupations, etc., nationales, à raisonner.
Le professeur de Sciences Po à la nouvelle université bulgare, Anthony Todorov, est encore plus catégorique.
Elle ne connaît pas la politique bulgare. Elle n'a jamais participé, sauf dans 2 campagnes électorales, pour être élue députée européenne. Elle a tout appris à Bruxelles, mais Bruxelles, c'est quand même assez particulier.
Alors, pourquoi Maria Gabriel ? Aux élections du 2 avril, le GERB est arrivé très légèrement en tête, mais toujours pas de majorité de gouvernement en vue. C'était le 5e scrutin en 2 ans. Boyko Borisov se tourne alors vers Maria Gabriel pour former un gouvernement d'unité. Elle a pour cela des atouts, constate Raina Stamboliska.
Par ses fonctions européennes, qu'il s'agisse du Parlement ou de la Commission, c'est quelqu'un qui vit, respire le consensus, en fait, la négociation, le compromis.
Guillaume Clossa souligne que la tâche sera rude.
Elle rentre dans un pays où le niveau de corruption est élevé. La modernisation du pays n'a pas été complètement faite. Et elle arrive à un moment qui est compliqué parce que la Bulgarie est confrontée directement à l'impact de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Pour Anthony Todorov, le choix de Maria Gabriel a aussi une dimension géopolitique.
Borisov tente de sortir d'un isolement politique en essayant de jouer sur la carte dite de l'euro-atlantisme. Et quand il propose cette femme politique et commissaire européenne, c'est dire, pas seulement à l'opinion en Bulgarie, mais aussi aux partenaires en Europe, qu'il est vraiment sans faille du côté de la solidarité euro-atlantique.
Anthony Todorov ne croit pas au succès de la démarche, mais Guillaume Clossa est plutôt confiant.
Elle est face à une mission pour laquelle elle n'a pas été vraiment préparée, pour laquelle elle n'a pas encore l'expérience. Mais elle a du sens politique.
Maria Gabriel n'est pas du genre à se laisser impressionner. C'est d'ailleurs un aller simple pour Sofia qu'elle a pris en démissionnant de son poste de commissaire à Bruxelles.
La révolution suspendue, c'est le titre du dernier ouvrage du sociologue Ronan Hervouet. Une plongée dans la révolution biélorusse d'août 2020, lorsque les citoyens avaient cru pouvoir renverser la dictature d'Alexandre Loukachenko suite aux élections truquées. Aujourd'hui, les opposants sont en prison ou en exil. C'est en Lituanie, en Pologne ou en République tchèque que Ronan Hervouet les a rencontrés. Marielle Vituro lui a demandé pourquoi, après plusieurs livres sur le quotidien des Biélorusses sous la dictature. Il avait voulu parler de ce soulèvement.
La première urgence pour moi, c'était de faire exister ce qui se passait là-bas. J'assistais depuis l'étranger à toute cette violence. J'ai vécu 5 ans dans ce pays. J'ai eu beaucoup d'étudiants, j'ai eu des amis. Donc il y avait véritablement le sentiment que, après en plus la guerre en Ukraine, tout cela, avec cet enchaînement de tragédies dans cette région de l'Europe, tout ce qui s'est passé en 2020 risquait de se perdre, de disparaître, de s'évanouir.
Ronan Hervouet a donc recueilli le témoignage de 30 exilés à Prague, à Varsovie ou à Vilnius. Il lui raconte comment ils ont vécu la campagne électorale, le scrutin du 9 août, les manifestations et la violente répression qui s'en est suivie. En 2020, le monde subit de plein fouet le coronavirus, des milliers de personnes décèdent, les gouvernements se mobilisent, sauf en Biélorussie. Le président Loukachenko nie la maladie et force les habitants à s'organiser pour y faire face. Un sentiment d'unité naît dans le pays. C'est le premier facteur qui a réveillé les consciences. Il y en a un deuxième, expliqué par le sociologue.
Le deuxième facteur très important, c'est la campagne électorale, extrêmement particulière, puisque les 3 candidats qui s'opposaient à Loukachenko ont été soit emprisonnés, Babariko et Tikhanovsky, soit empêchés de se présenter, c'est le cas de Tsepkalo. Et Svetlana Tikhanovskaya, l'épouse de Sergueï Tikhanovsky, qui n'avait jamais fait de politique, décide de se présenter. Loukachenko n'y voit aucun danger. Et en fait, elle va rassembler derrière elle l'opposition, elle va défier le pouvoir et elle va susciter un véritable enthousiasme.
Quand les résultats donnent de nouveau Alexandre Loukachenko vainqueur, partout dans le pays, à Minsk, à Gomel, à Brest ou à Grodno, les Biélorusses descendent dans la rue.
Beaucoup de manifestations dans l'espace public, mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ces manifestations étaient pacifiques, si vous voulez, très civiles, très policées, avec quelques images qui sont me rappellent, qui étaient déjà dans les médias à l'époque, où pour monter sur des bancs publics, on enlevait ses chaussures, etc. Et je pense que dans la manière dont les manifestants se représentaient leur propre mouvement, c'est très important de montrer que ils n'étaient pas violents, qu'ils réclamaient de manière pacifique le respect de leurs droits, et que comme ils étaient très nombreux, ça devait suffire pour que le régime comprenne.
Mais la répression brutale s'abat sur les manifestants. Au début, le pouvoir cible ceux qui descendent dans la rue. Désormais, il suffit de porter les couleurs nationales, le blanc ou le rouge, ou d'administrer des chaînes d'opposition sur les réseaux sociaux pour être envoyé en prison. Des dizaines de milliers de Biélorusses choisissent alors l'exil. Mais comme le remarque Ronan Hervouet, la guerre en Ukraine les a rendus invisibles. 2020 a bouleversé les consciences et a changé le rapport des Biélorusses à la chose politique. Néanmoins, à l'intérieur du pays, aucune opposition n'est possible.
Dans le pays, la situation est terrible puisque la répression continue. Chaque jour, il y a des arrestations. Le nombre de prisonniers politiques sur le site de Viasna, l'ONG de défense des droits humains au Bélarus, augmente chaque jour. Donc il y a 4 ou 5 arrestations par jour, des condamnations nouvelles chaque jour. Donc dans le pays, il est impossible d'agir. C'est un contrôle politique et policier sur la société qui est démesuré, dont on a beaucoup de mal à se rendre compte de l'extérieur. Ça ne se traduit pas par un nombre de morts démesuré. Les gens ne meurent pas en masse, comme en Iran par exemple. Mais en revanche, il y a un nombre d'incarcérations, de menaces, de contrôles qui fait qu'il est absolument, probablement impossible d'organiser la moindre opposition à l'intérieur du pays.
La guerre en Ukraine, la présence militaire russe en Biélorussie ou la crise des migrants orchestrée par Alexandre Loukachenko ont redessiné la carte de cette région. Pour Ronan Hervouet, des barrières sont en train de se créer, mais les groupes d'exilés et les organisations politiques qui cherchent à faire vivre la Biélorussie démocratique auront un rôle important à jouer dans l'avenir de l'Europe.
It was a woman's voice. And it was such an anguished, heart-wrenching sound. 10 points d'écart en moyenne. 62% des femmes ont un emploi en Europe contre 72% des hommes. Et lorsque le chômage survient pour les seniors, il a tendance à durer plus longtemps. C'est donc un double défi que relève en France l'association Force Femmes, qui accompagne les femmes de plus de 45 ans à retrouver du travail ou à créer leur entreprise. 7 antennes en France, dont une dans la métropole lilloise où s'est rendue Lise Verbeck.
Dès l'entrée dans les locaux de Force Femmes, on tombe sur une affiche qui lance 45 ans et alors. C'est ici que les femmes, dites seniors sur le marché de l'emploi, suivent des ateliers collectifs ou individuels, entièrement gratuits, pour retrouver du travail. Marielle a 55 ans. Il y a un an, alors qu'elle travaillait dans la grande distribution en marketing, elle a quitté son emploi pour des raisons de santé. Quand elle a découvert l'association, cela lui a permis de rencontrer d'autres femmes dans la même situation qu'elle.
Quand j'ai arrêté de travailler, c'est le gros vide. Donc, ça fait peur parce qu'on n'a plus rien dans son agenda. Donc, c'est un peu déstabilisant. On perd vite confiance en soi aussi. L'intérêt de cette association, c'est qu'effectivement, ça permet donc de rencontrer d'autres personnes qui ont quelque part plus ou moins les mêmes parcours de vie, puisqu'on a à peu près le même âge toutes. Et donc, ça permet à la fois de casser l'isolement, de se créer quelque chose dans son emploi du temps, puis de découvrir des choses, d'apprendre.
Lors des ateliers recherche d'emploi, elle a notamment appris à savoir quoi répondre aux recruteurs qui pourraient lui faire remarquer son âge.
Leur dire qu'effectivement, à 55 ans, on n'a plus d'obligation familiale, on n'a plus d'enfants en bas âge, donc voilà, on est une génération aussi qui est beaucoup plus assidue au travail. On est des gens beaucoup plus stables aussi, prêts à rester, à s'engager dans une entreprise. Et puis, on a une expérience qu'on peut faire valoir aussi, on réagit peut-être plus facilement dans des contextes de crise ou autre, parce que voilà, on peut aussi venir en support de plus jeunes. Enfin, il y a plein d'arguments finalement qu'on peut sortir et à brûle-pourpoint, on n'y pense pas. Et donc, voilà, c'est tout un travail, je dirais, de réflexion, on mûrit tout ça et je pense qu'après, on est super armés pour attaquer le marché de l'emploi.
Anne fait partie des bénévoles experts de l'association qui coache les femmes. Et selon elle, si les choses s'améliorent, il y a encore du travail à faire du côté des recruteurs.
On peut s'entendre dire en tant que femme des choses absolument sidérantes dans un entretien d'embauche. Ça existe encore. Vu votre âge, vous êtes une senior, puis avec votre histoire de vie, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous ? C'est une extrême violence. Voilà, et tout ça dit comme une petite provoque pour tester vos ressources. En fait, ça déglingue quelqu'un, quoi. Donc je pense que les choses bougent, puis qu'il y a des résidus de grosses résistances. Qui sont complètement sidérantes.
La bénévole anime des ateliers de management de soi-même, car apprendre à se comprendre, à savoir ce dont on a envie et à reprendre confiance en soi, c'est tout aussi essentiel. Hélène, 45 ans, a décidé de quitter un poste de direction pour créer sa propre entreprise, car elle se disait que 45 ans, c'était le bon moment. C'est sa conseillère Pôle emploi qui lui a parlé de Force Femmes, et depuis quelques mois, elle suit des ateliers qu'elle n'aurait jamais pensé utiles.
Par exemple, la gestion du stress. Sur la respiration, clairement dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, on n'en parle pas encore assez. Et pour autant, pour des profils de manager comme le mien, c'est indispensable. Et j'ai appris, parce que vous êtes dans une machine à laver pendant 20 ans. Puis d'un seul coup, vous prenez le temps et vous apprenez des choses. Donc c'est vraiment une période magique. Peut-être qu'on ne les appliquera pas forcément après quand on repartira dans le monde de l'entreprise. Pas forcément, mais je suis persuadée que vous gardez 5, 10, 15%.
L'antenne de Lille suit 140 femmes actuellement.
Elles ont 52 ans en moyenne.
Carole Lemelledo, la responsable.
50% d'entre elles sont seules ou en cours de divorce. Ce qui fait que c'est vraiment un âge un peu charnière où il se passe pas mal de choses. Il y a également leurs parents pour lesquels elles sont aidantes. Divorce, ça veut dire déménagement. Au chômage, c'est pas très très facile. Donc c'est vraiment un moment charnière. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'être aidées et accompagnées parce qu'elles peuvent pas tout faire toutes seules.
Les bénévoles sont tous des professionnels, RH, consultants, comptables, managers, juristes, etc. Et l'association a créé un gros réseau qui est une ressource sur lequel s'appuie Christine, 59 ans. Après une carrière hachée, elle est désormais à mi-temps en tant que psychologue.
Pour créer mon site internet, pour être visible, j'ai fait appel à Force Femmes en demandant des conseils. Si j'ai des questions, si j'ai besoin de rencontrer pour X raisons des gens qui ont créé une entreprise, qui sont pointus en droit, je vais pouvoir trouver la ressource. Au-delà de Pôle emploi qui est tout de suite très stigmatisant, là je trouve que c'est vraiment un lieu qui permet et de se poser et de repartir.
Le taux de retour à un emploi pérenne ou une création d'entreprise pour les femmes accompagnées par Force Femmes est de 53%.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur la nouvelle application Pure Radio à télécharger dès aujourd'hui. On vous accompagne aussi sur les réseaux sociaux. À demain sur nos antennes.